I know Joe. We know Joe. But most importantly, Joe knows us.
Je connais Joe. Nous connaissons Joe. Mais encore plus important, Joe nous connaît. Qui vient de dire ça à propos de Joe Biden, Raphaël?
C'est Jim Clyburn. C'est probablement un nom qui ne dira pas grand-chose à peu près tout le monde qui nous écoute, mais c'est quelqu'un dont il est quand même assez important de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que M. Clyburn, c'est le numéro 3 du caucus démocrate à la Chambre des représentants. C'est surtout l'Afro-Américain, l'élu Afro-Américain le plus important à plusieurs égards, là, à la grandeur des États-Unis, et c'est de loin l'élu démocrate le plus important de la Caroline du Sud. C'est important dans un contexte où là, il vient aujourd'hui d'annoncer son appui formel à Joe Biden, l'ex-vice-président qui était en fait laissé pour mort par bien du monde après son début de course absolument catastrophique. C'est cassé le nez dans les trois premiers États qui ont voté. Mais là, hier, a connu un débat dans lequel il a survécu. Contrairement à beaucoup de commentateurs là, qui l'ont déclaré grand gagnant, je ne dirais pas qu'il a brillé, mais je te dirais qu'il a bénéficié en fait du phénomène inverse qui l'a fait souffrir pendant les premiers débats de la course, c'est-à-dire qu'au début, les attentes étaient très élevées à son égard parce que c'était le favori de la course. Mais il s'est tellement planté que là, les attentes sont tellement rendues basses à son égard que hier, juste le fait d'être, je te dirais, adéquat l'a fait assez bien paraître. Et on l'a couronné assez largement dans les médias américains comme le grand gagnant du débat d'hier. On combine ça à l'appui qu'il reçoit aujourd'hui de M. Clyburn. C'est un bon 24 heures pour M. Biden. Il a une avance qui semble toujours pour l'instant rester assez solide en Caroline du Sud. On le rappelle, la primaire a lieu samedi. Mais on rappelle aussi ceci. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais juste dans les 24 dernières heures, justement, M. Biden a à la fois déclaré qu'il y avait 150 millions d'Américains qui avaient été abattus par des armes à feu.
1,5.
Oui, mais non, mais même là.
OK, excuse-moi, il a dit...
Lui a dit 150.
150 millions, mon Dieu!
C'est la moitié de la population américaine. Là. Ça, c'est une chose. Il est allé dire qu'il avait été arrêté en rendant visite à Nelson Mandela en Afrique du Sud. Et puis, il est allé dire qu'il était candidat pour le Sénat des États-Unis, alors que, pour la petite histoire, il est candidat pour la présidence des États-Unis. T'sais, tout ça, c'est arrivé en moins de 24 heures. Fait que je comprends qu'il a eu une performance correcte hier. Je comprends que là, il surfe sur la popularité que va lui donner cet appui-là de M. Clyburn. Et il a des très bonnes chances de gagner samedi. Mais il ne faut pas se leurrer et penser que du jour au lendemain, il va redevenir un favori, un grand favori dans la course démocrate. Le favori, ça reste Bernie Sanders. Ça mérite d'être dit. Et je t'ajoute aussi ceci. Si M. Biden devait gagner samedi, ça compliquerait en fait à plusieurs égards les jeux pour le Parti démocrate parce que ça va devenir assurément plus difficile dans ce contexte-là pour Bernie Sanders ou pour qui que ce soit d'autre d'amasser la majorité de délégués nécessaires en vue de la convention à l'été prochain. Parce que, évidemment, plus tu as de candidats qui gagnent des primaires à droite puis à gauche, moins il y en a qui vont vouloir se retirer de la course, plus ça va continuer à diviser le vote et, évidemment, plus ça va rendre ça difficile pour qui que ce soit, Bernie Sanders le premier, à aller chercher à la fois une majorité de délégués et surtout à unir le parti éventuellement derrière lui.
Parce donc, qu'on sait, Raphaël, que ça fait un débat à l'intérieur de la famille démocrate, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive si quand les candidats vont arriver à la convention l'été prochain, personne n'a de majorité, 50% plus un des délégués, et tout le monde a, tu sais, une partie des votes, là, 25% ici, 35% là. C'est-tu celui qui a 50% plus un ou celui qui a le plus de voix qui devient le candidat?
Ben c'est ça la question. C'est-à-dire que si on arrive à la convention à l'été et il y a un candidat, à l'heure actuelle, je te maintiendrais que la personne la plus susceptible d'atteindre ça, ça serait Bernie Sanders, arrive donc à la convention à 50% plus 1. Ben là, c'est automatique, la personne devient le candidat officiel du Parti démocrate pour l'élection présidentielle contre Donald Trump. Si par contre, il n'y a personne qui est à 50% plus 1, ce n'est pas automatique que la personne qui a le plus grand nombre de délégués, qui a une pluralité, mais non 50% plus 1, devient nécessairement le candidat du parti. Et c'est là que tu peux avoir une convention qui viendrait carrément déchirer le parti. Et écoute, on n'a pas besoin de spéculer vraiment longtemps pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Regarde juste la résistance à l'égard de la candidature de Bernie Sanders. On l'a vu hier de façon très claire, pendant le débat, justement. Le Parti démocrate avait vendu des billets pour assister au débat qui était télédiffusé et donc on entendait l'audience réagir en direct. Les billets se vendaient pour presque 2 000 $. Ça, c'est pas un hasard. C'est que c'était clairement une tentative, je ne dirais pas nécessairement sournoise, mais un petit peu par la bande, d'essayer de limiter le plus possible le fait d'avoir des partisans de Bernie Sanders qui sont souvent des gens moins fortunés, qui font des petits dons et non pas des riches donateurs connectés au Parti démocrate dans la salle. Et à plus d'une occasion, on a eu des réactions, je te dirais, assez déconcertantes de l'audience qui huait Bernie Sanders alors qu'il ne disait rien de particulièrement controversé. Donc, on veut encore du côté de l'establishment démocrate lui barrer la voie. Et je te dis que s'il arrive à la convention à Milwaukee en juillet avec le plus grand nombre de délégués, mais que l'establishment du parti se refuse de lui donner, de lui remettre, le risque pour l'unité du Parti démocrate va être absolument gigantesque.
Mais Raphaël, j'ai même lu un scénario quelque part où, puis écoute, on est probablement dans la politique fiction, mais dis-moi si ça se peut. Mm-hmm. S'il y avait ce qu'on appelle une convention contestée, là, il n'y a personne qui a de majorité claire à la convention démocrate et il va falloir trouver un ou une gagnante, bien, il y a des gens qui ont mentionné que peut-être il pourrait avoir Hillary Clinton qui arrive sur son grand cheval blanc pour sauver le parti.
Je l'ai entendu cela aussi. Écoute, en fait, je vais te renvoyer la question. À quoi est-ce que tu penses qu'on assisterait, pardonne-moi l'anglicisme, là, mais comme shit show, si c'est ça qu'on avait? Imagine la réaction, Pat, la réaction des électeurs de Bernie Sanders si on devait avoir un scénario de la sorte. Écoute, ça serait déjà, je pense, potentiellement catastrophique pour le Parti démocrate si on refilait la candidature l'investiture plutôt à un candidat comme Biden ou comme Bloomberg qui au moins sont actuellement en lice, font campagne pour la Maison-Blanche. Imagine si non seulement on enlevait ça à Sanders, mais on le donnait à quelqu'un qui n'est même pas en liste présentement, ça n'aurait pas de bon sens. Là.
Est-ce qu'on peut s'entendre, Raphaël, pour dire que, qu'importe qui gagne, là, un gagnant ou une gagnante, là, le grand défi du Parti démocrate, ça va être de faire sortir son vote? Parce que si tu regardes 2016 avec Mme Clinton, il y a plein de puristes dans le Parti démocrate qui ne l'aimaient pas, ne sont pas allés voter. Ouais. Ben, ça a permis à l'autre gars de passer.
Ben, c'est beaucoup l'argumentaire de Bernie Sanders qui dit que sa candidature en vue d'une élection générale éventuelle contre Donald Trump va s'appuyer d'abord et avant tout sur la plus grosse, la plus robuste sortie de vote de l'histoire américaine. Il faudra voir. Je te dirais ceci en finissant pour ce qui est des primaires démocrates aujourd'hui. Là, Bernie Sanders a annoncé qu'il n'allait pas être particulièrement en Caroline du Sud ni vendredi, ni samedi, alors que la primaire a lieu samedi, peut-être parce qu'il la concède essentiellement à M. Biden, mais qu'il allait plutôt être au Massachusetts. Donc, ça peut-être te demander pourquoi le Massachusetts? Très simplement, mardi prochain, dans 6 jours, c'est le Super Mardi, le Super Tuesday, évidemment, on va s'en reparler toi et moi d'ici là. Lors du Super Mardi, il y a 14 États qui votent, dont le Massachusetts. C'est loin d'être le plus populeux de la gang, mais c'est l'État d'une certaine Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts. Et donc, le calcul que l'équipe de M. Sanders fait, c'est qu'on pourrait essentiellement lui asséner le coup de grâce, ce qu'on appelle en anglais le kill shot, là. Donc, si M. Sanders était capable de battre Mme Warren dans sa propre cour, on se dit que ça serait assez pour la pousser, en fait, à la porte de sortie. Et qui ça pourrait avoir des répercussions importantes pour le reste de la course parce qu'on sait qu'elle et M. Sanders se disputent en bonne partie le même électorat, l'électorat plus à gauche du Parti démocrate. Donc, si M. Sanders pouvait pousser Mme Warren à l'extérieur de la course d'ici une semaine, ça pourrait nettement donner un gros coup de pouce à M. Sanders.
OK. À 18h30, Donald Trump va s'adresser aux Américains pour faire le point sur le coronavirus.
Oui, en effet, conférence de presse. Je t'en ai parlé hier. Écoute, ce n'est pas à sous-estimer, non seulement d'un point de vue de santé humaine, mais d'un point de vue politique et électoral. Le président qui répète encore aujourd'hui que la situation est sous contrôle aux États-Unis. En même temps, ce qu'on apprend, c'est que son administration est en train de considérer d'imposer des restrictions pour les Américains qui voudraient voyager à l'étranger. Donc, 18h30, c'est très très attendu. Et les Américains ordinaires en parlent pas mal plus qu'on réalise. C'est en train de devenir un enjeu.
C'est ça. Hein? C'est comme si l'administration Trump avait été un peu lente à réagir.
Ça.
Hein?
C'est ça le risque.
Parfait. Merci beaucoup, Raphaël.
À demain.
On se retrouve demain. Parfait. Les chroniqueurs de la prochaine heure s'en viennent. Les chroniqueurs du 17h seront là tout de suite après la pause. Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween et les accros de la télé. Restez là.